Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour, une journée pour les avocats en danger, une pensée pour les avocats turcs cette année. La 9e édition de la Journée internationale de l'avocat en danger se tenait hier. Être avocat, c'est être seul contre tous. Cette définition, on la doit à Éric Dupond-Moretti, star du barreau en France. Elle pourrait s'appliquer aux avocats de Turquie, malmenés dans les tribunaux, poursuivis, emprisonnés parfois. Leur situation n'a cessé de s'aggraver depuis la tentative de putsch de juillet 2016. Notre correspondante à Istanbul, Anne Andlauer, a rencontré certains de ces avocats en danger.
Au palais de justice d'Istanbul, on reconnaît à quelques signes qu'un procès important est sur le point de commencer. L'attroupement sur le parvis, les banderoles dépliées, les policiers crispés à côté des blindés, la foule qui tente de pénétrer dans la salle d'audience et s'entend dire qu'il n'y a plus de place et qu'il faut reculer. Et au milieu de la foule, des dizaines de robes noires, cols rouges et manchettes vertes qui se feraient un passage pour rejoindre leur banc. Ce sont les avocats. Leur nombre peut étonner, mais selon Uğur Altınarık, vice-président du Centre des droits de l'homme du barreau d'Istanbul, c'est devenu une nécessité. Lui-même a défendu avec plus de 200 collègues des journalistes du quotidien d'opposition Cumhuriyet, finalement condamnés pour soutien à des organisations terroristes.
Ces dernières années, nous faisons face à des juges qui n'hésitent pas à nous réprimander et à nous expulser du tribunal quand ils n'aiment pas notre plaidoirie. Dans ces grands procès politiques, il n'y a que 4 ou 5 avocats qui plaident. Tous les autres sont là par solidarité, pour faire bloc et renforcer la position de l'avocat face à la cour.
Uğur Altınarık exerce depuis 13 ans, assez longtemps pour avoir connu une ambiance différente dans les salles d'audience. Pas un âge d'or, juste une époque moins sombre.
Avant, même si la justice de ce pays était déjà problématique, la robe d'avocat inspirait encore un certain respect. Et les juges nous considéraient encore comme des collègues. Aujourd'hui, dans les procès pénaux, pour violation des droits, nous sommes perçus comme des individus inutiles, uniquement bons à allonger les procédures et qu'on n'écoute pas.
Récemment, İlknur Alcan a eu le pied écrasé lors d'une évacuation musclée de la salle d'audience. Cet avocat de 41 ans, connu pour sa défense des militants de la cause kurde, des journalistes et des députés emprisonnés, soupire quand elle raconte ses anecdotes de prétoire.
Il reste bien quelques juges qui essaient de sauver les apparences en se comportant correctement, ce qui nous semble extraordinaire, alors que c'est juste normal. Mais il y a surtout beaucoup de juges qui nous disent « Dépêchez-vous, vous avez 3 minutes, ensuite je coupe le micro ». Comment plaider en 3 minutes quand l'acte d'accusation fait 2000 pages ?
Comment plaider surtout quand le verdict est écrit d'avance ? Depuis la tentative de putsch de juillet 2016, près de 4000 juges et procureurs ont été limogés pour des liens présumés avec le terrorisme, la plupart étant accusés d'allégeance au prédicateur Fethullah Gülen, le cerveau désigné du putsch. Et ce n'est pas tout. Depuis l'instauration d'un régime hyper-présidentiel, le pouvoir nomme directement ou indirectement tous les membres du Conseil des juges et procureurs, lui-même chargé de toutes les nominations dans la magistrature. Un dernier coup de boutoir à son indépendance, selon l'avocate İlknur Alcan, qui cite un exemple édifiant.
Je défendais récemment des avocats emprisonnés depuis 1 an. Après une semaine de débat, le tribunal décide de les remettre en liberté. Mais à peine 6 heures plus tard, sans qu'il n'y ait aucun élément nouveau, le même tribunal revient sur sa décision et renvoie mes confrères en prison. Les juges ont eu peur parce que prendre une décision qui déplaît au pouvoir, c'est s'exposer à des sanctions. La preuve, ces juges ont tous été relégués à des tribunaux inférieurs.
Dans ce procès, les avocats étaient jugés pour appartenance présumée au même groupe terroriste que des clients qu'ils représentaient dans un autre dossier. Un cas devenu banal d'après Ömer Kavili, avocat depuis 30 ans.
Nous sommes en danger parce que les juges nous regardent comme ils regardent nos clients. Ils se disent, s'il défend cette personne, c'est qu'il doit être coupable lui aussi.
Selon le barreau d'Istanbul, quelques 570 avocats sont actuellement incarcérés, la plupart pour des liens présumés avec une organisation terroriste. En octobre dernier, Ömer Kavili a lui-même passé une nuit dans une prison d'Istanbul pour un tout autre motif, résistance à un fonctionnaire. La veille, lors d'une audience, l'avocat avait eu une altercation avec le juge qui venait de lui refuser un court entretien avec son client.
Il m'avait répondu avec un regard noir « Ce n'est pas à la cour mais aux gendarmes de vous y autoriser ». En réalité, les gendarmes sont sous l'autorité du président du tribunal. Avec cette phrase, le juge reconnaissait sa soumission au pouvoir.
Chez les avocats spécialisés dans la défense des droits, le découragement guette, déplore Uğur Altınarık.
Beaucoup ont perdu la flamme, changé de métier pour ouvrir des cafés ou travailler à l'étranger, y compris dans des emplois peu qualifiés.
Iknur Aljan fait le même constat.
À quoi servons-nous ? Entre collègues, c'est un débat récurrent. Nous préparons nos plaidoiries en nous référant aux textes du droit et à la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais les juges s'en moquent. Est-ce que je suis invisible ? Je leur pose souvent cette question.
Ces deux avocats considèrent pourtant qu'ils n'ont pas le choix, qu'il en va de leur conscience professionnelle et humaine. Uğur Altınarık.
Nous, avocats, jouons un rôle de témoins historiques. Pour les juges, nos plaidoiries ne sont peut-être que des feuilles volantes, mais pour l'histoire, elles serviront de documents sur les violations des droits de l'homme dans la période que nous traversons.
Des plaidoiries qui, à défaut d'être entendues dans les salles d'audience, ont déjà, pour certaines, été publiées sous forme de livres et qui serviront peut-être un jour dans les facultés de droit.
En Serbie, les associations de journalistes indépendants s'inquiètent des atteintes à la liberté de la presse de plus en plus fréquentes, de plus en plus graves. Une presse muselée, asphyxiée peu à peu, Laurent Gélin.
La pluralité de l'information, voilà l'une des exigences des dizaines de milliers de personnes qui défilent tous les samedis depuis 2 mois à Belgrade et dans les grandes villes de Serbie. Nous voulons 5 minutes d'antenne à la RTS, la télévision nationale demande entre autres les manifestants, alors que le mouvement de contestation est boycotté par les médias d'État. C'est en effet une chute vertigineuse que connaît la Serbie au classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières. Entre 2017 et 2018, le pays est tombé de 10 places et il occupe actuellement une peu glorieuse 76e position. Il faut dire que les violences contre les journalistes se sont multipliées ces derniers mois, comme l'incendie avec des cocktails Molotov le 12 décembre dernier de la maison de Milan Jovanovic, un reporter d'investigation. L'année 2017 avait déjà enregistré un triste record, avec 92 agressions physiques, atteintes aux biens des journalistes, pressions ou menaces. C'est donc un climat général d'insécurité que dénoncent les journalistes de Serbie et l'opacité de l'attribution des subventions publiques distribuées en grande majorité à des médias proches du pouvoir. Lors de son entretien avec les responsables de Reporters sans frontières, le président Aleksandar Vučić a d'ailleurs reconnu, je cite, qu'il n'était pas fier de la situation de son pays, des déclarations qualifiées d'hypocrites par les associations de journalistes indépendants de Serbie.
La une de Courrier International avec Virginie Le Petit aujourd'hui. Bonjour Virginie.
Bonjour.
Et cette semaine, le magazine s'interroge sur la démocratie. Est-ce qu'elle est en voie d'extinction dans le monde en général et en particulier en Europe ?
Alors on peut le redouter, en effet on compte aujourd'hui 20 régimes populistes dans le monde et la moitié sont en Europe selon le Tony Blair Institute for Global Change. Alors cette fondation britannique définit les gouvernements populistes par 2 traits caractéristiques. D'abord, tous opposent le vrai peuple aux élites et puis une fois parvenus démocratiquement au pouvoir, plus rien ne doit leur faire obstacle. Les chercheurs sont même allés plus loin, ils distinguent 3 catégories de populistes. Les socio-économiques, qui opposent les travailleurs aux dirigeants économiques, comme en Grèce. Les identitaires, qui opposent les autochtones aux migrants et à leurs alliés, les élites cosmopolites, comme en Pologne. Et enfin, les antisystèmes, qui opposent le peuple aux élites politiques, et ça c'est en Italie.
Et ces régimes, une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir, est-ce qu'ils sont partis pour durer, pour s'installer ?
Alors c'est probable, pour une raison simple. En Europe, une fois élus démocratiquement, ces dirigeants démontent l'état de droit pour rester le plus longtemps possible au pouvoir. Ils le font lentement, pas à pas, en commençant par éroder ses fondations libérales avant de s'attaquer à ses fondations électorales. De Recep Tayyip Erdogan en Turquie à Vladimir Poutine en Russie, en passant par Viktor Orban en Hongrie, les démocraties font l'objet d'un démontage méticuleux.
Et face à eux, est-ce qu'il y a des contre-pouvoirs, des pouvoirs d'alerte ?
En fait, c'est difficile parce que chaque coup est porté isolément. Par exemple, le premier ministre hongrois Viktor Orban, qui excelle à ce jeu-là, s'inspire pour chaque nouvelle règle d'une règle semblable qui existe dans une autre démocratie occidentale. Et c'est seulement la combinaison de ces changements, ce que la sociologue américaine Kim Lane Chepele appelle l'État Frankenstein, qui accouche d'un régime antidémocratique. Ainsi, toujours en Hongrie, en décembre dernier, on a franchi la dernière étape qui sépare le régime d'un régime réellement autoritaire en supprimant tout contrôle indépendant de la justice sur l'exécutif.
Alors, c'est un constat assez sombre. Comment est-ce que la presse internationale voit ça? Est-ce qu'on doit s'attendre au pire?
Alors, ça dépend, mais pour le Financial Times, le grand quotidien économique britannique, il veut croire qu'en 2019, ce pourrait être l'année où le populisme s'écroule, miné par sa propre incohérence. La preuve, c'est l'enlisement du Brexit, qui ne paraît plus être une si bonne idée, ou même la dégringolade de la cote de popularité de Donald Trump aux États-Unis. Pourtant, les raisons qui ont poussé les électeurs à soutenir ses dirigeants ou ses décisions sont encore là. Et puis on assiste à la montée d'un populisme de gauche qui pourrait gagner en puissance. Et enfin, ces idées provoquent une espèce de contagion mondiale.
Vous en avez un petit peu parlé, revenons au Brexit, Virginie. Certains Britanniques anticipent le no deal, l'absence d'accord, et ils stockent déjà des provisions.
Oui, c'est ce que montre un grand reportage du Guardian, qui est allé à Londres, à Cardiff, à Cambridge, dans les Cornouailles, et qui dresse le portrait de ces Britanniques qui se préparent au pire. Alors, ils le répètent, ils ne sont pas fous, ils ne sont pas des survivalistes, ils essaient simplement de stocker les produits essentiels à leur survie, mais aussi à leur confort. Donc on trouve des médicaments, du papier toilette, des tomates en boîte, du thé, du café, mais aussi de l'alcool, des produits apéritifs, de la nourriture pour chiens ou pour chats. Certains font même installer des panneaux solaires sur leur toit. C'était des projets prévus de longue date, mais que cette menace du no deal a concrétisé. Et puis les plus prévoyants apprennent même le jardinage et préparent des kits Brexit pour leurs amis et leurs familles.
Et pendant ce temps-là, en Allemagne, il y a une polémique autour de la Currywurst.
Oui, cette saucisse typique que l'on déguste couverte de ketchup au curry a 70 ans cette année. Enfin, ça, c'est ce qu'affirment les Berlinois qui viennent de créer une pièce à son effigie. Alors, sur cette pièce, au premier plan, on a deux saucisses recouvertes de la fameuse sauce et derrière elle, le visage de Hertha Oever, l'inventrice de la Currywurst. Elle aurait créé cette recette en septembre 1949, alors que les clients boudaient son stand de saucisses à Charlottenburg, dans l'ouest de Berlin. Mais c'est là que le bas blesse, explique la Süddeutsche Zeitung, qui affirme qu'il y avait déjà à l'époque des Currywurst à Hambourg. La preuve, l'écrivain Uwe Thiem, qui affirme avoir dégusté une Currywurst dans cette ville en 1947. Et il y a encore une autre région du pays qui revendique la Currywurst, c'est l'Ouest. Et là, la preuve, c'est une chanson des années 80. Mais il y a quelque chose qui met tout le monde d'accord. C'est bien la berlinoise Hertha Oever qui a déposé le brevet en 1959 et qui a récolté les fruits de la saucisse.
Merci Virginie Le Petit à lire donc cette semaine dans Courrier International. Si vous aimez les trains fantômes, les histoires de spectres, ou si vous avez l'âme romantique, tendance gothique, alors Vienne, la capitale autrichienne, a peut-être quelque chose pour vous. Depuis cet automne, on peut visiter le cimetière central de Vienne à la nuit tombée. Il faut être accompagné d'un guide pour ne pas se perdre au milieu des tombes et des cryptes. Ambiance garantie, Céline Béal.
Karin Jandrasitz-Breiter referme le lourd portail du cimetière central derrière le groupe. Une bonne vingtaine de courageux a bravé le froid. Depuis que ces visites de nuit ont été lancées à l'automne dernier, elles ont été prises d'assaut. Il faut croire que les Viennois avaient bien envie de redécouvrir leur célèbre cimetière sous une autre perspective. Les habitants de la capitale autrichienne sont attirés par le morbide, affirme la guide.
Ils pensent toujours à la mort et ils sont un peu mélancolique.
Pour preuve, les chansons du répertoire viennois connaissent trois thèmes récurrents. L'amour, le vin et la mort. Et puis ici, il est traditionnel d'apporter une grande attention à son propre enterrement. Les Viennois veulent être de beaux cadavres, explique la guide, mis en terre avec la pompe qu'il se doit. Le cimetière central, avec son crématorium de style expressionniste, son église Art Nouveau et ses arcades de marbre, s'y prêtent très bien. C'est là que reposent les présidents autrichiens décédés, ainsi que les grands noms de la musique classique. comme Beethoven, Brahms, Schubert ou Strauss. La guide indique certaines de leurs sépultures avec une lampe de poche. Dans le noir, on les voit moins bien. Pourquoi venir en visite à ce moment ?
L'imagination est plus grande. Les pensées sont différentes pendant la nuit au noir que pendant la journée.
Le vent agite les branches de grands arbres qui se penchent sur les visiteurs. Seules quelques loupiottes rouges percent l'obscurité. Elles sont traditionnellement déposées par les Autrichiens sur les tombes de leurs morts. Dans le groupe, Barbara s'attarde pour jeter un regard autour d'elle.
L'ambiance est complètement différente la nuit. L'atmosphère est mystique, inquiétante. On a une autre perception des choses.
Les histoires racontées ce soir contribuent à l'ambiance. Elles parlent de la peur des vampires à l'époque de l'impératrice Marie-Thérèse, d'un bourreau qui recevait des tonnes de lettres d'amour, ou encore des mésaventures du squelette de Beethoven, qui est enterré là avec un crâne qui n'est pas le sien. Au contraire de sa petite amie Barbara, Martin, viennois d'origine luxembourgeoise, trouve que ces histoires un peu saugrenues finalement rendent la mort moins inquiétante.
On doit tous mourir un jour, mais comme ça c'est quelque chose de très, disons, normal. Tout le monde doit y penser, tout le monde doit... Il ne faut pas avoir peur, c'est quelque chose qu'il faut tout simplement accepter.
Les visiteurs rendent les lampes de poche distribuées pour l'expédition. Ils ont éclairé pas mal de recoins du cimetière, de belles stèles, des plantes intéressantes. Par contre, côté fantôme, RAS. Hush little baby, it's only rock and roll.
Le rendez-vous musical avec Vincent Théval. Bonjour Vincent.
Bonjour Juliette.
9 ans après ses débuts du côté de Eindhoven au sud des Pays-Bas, le quatuor Moses and the Firstborn publie aujourd'hui son 3e album.
Eh oui, en prouvant par là même qu'il a de la suite dans les idées, puisque après avoir pioché leurs références dans le rock garage des années 60, les 4 musiciens s'attaquent désormais au début des années 90 et aux disques qu'écoutaient leurs parents. Leur papa, plus précisément, c'est ce qu'il faut comprendre du titre de cet album, Dadcore, néologisme qui marie les mots dad, papa, et hardcore, un genre de rock à guitare très énervé. Moses and the Firstborn affiche donc la couleur, celle d'un pastiche énergique et accrocheur qui pourrait sonner creux si le groupe n'avait pas sous le coude autant de mélodies et d'idées bondissantes.
And the Firstborn, Dadcore sur Radio France Internationale avec Vincent Théval. Accent d'Europe, c'est terminé. À la réalisation, Françoise Grelot. Vous nous suivez, vous nous réécoutez sur internet, rfi.fr et sur les réseaux sociaux.